Camarade, s'écria une voix jeune et enthousiaste. Attention, camarade. Nous avons de glorieuses nouvelles pour vous. Nous avons gagné la bataille pour la production. Les rapports maintenant complets du rendement dans tous les genres de produits de consommation montrent que le niveau moyen de la vie a augmenté de pas moins de 20% au cours des dernières années. Ce matin, dans toute l'Océanie, il y a eu des manifestations spontanées de travailleurs qui sont sortis des bureaux et des usines pour défiler dans les rues avec des bannières exprimant leur gratitude à Big Brother pour la nouvelle et heureuse vie que ces sages dirigeants nous offrent. Voici quelques-uns des chiffres complétés. Produits alimentaires. L'expression « notre nouvelle et heureuse vie » est revenue à plusieurs reprises. C'était l'une des formules préférées du ministère de l'Abondance ces derniers temps. Parsons, captivé par l'appel du clairon, était assis et écoutait avec une sorte de solennité béate, une sorte de pieux ennui. Il ne pouvait pas suivre les chiffres, mais il était conscient qu'ils étaient en quelque sorte un motif de satisfaction. Il avait sorti une énorme pipe sale, qui était déjà à moitié pleine de tabac carbonisé. Avec une ration de tabac de 100 grammes par semaine, il était rarement possible de remplir complètement sa pipe. Winston fumait une cigarette de la victoire, qu'il tenait soigneusement à l'horizontale. La nouvelle ration ne commençait que demain, et il n'avait plus que 4 cigarettes. Pour le moment, son attention était concentrée sur le son du télécran, et il n'entendait plus les bruits extérieurs. Il apparaissait qu'il y avait même eu des manifestations pour remercier Big Brother d'avoir augmenté la ration de chocolat à 20 grammes par semaine. Et ce n'est qu'hier, a-t-il réfléchi, qu'il a annoncé que la ration devait être réduite à 20 grammes par semaine. Était-ce possible qu'il puisse avaler cela ? Après seulement 24 heures ? Oui, ils l'ont avalé. Parsons l'a avalé facilement avec la stupidité d'un animal. La créature sans yeux à l'autre table l'a avalé avec fanatisme, passionnément, avec un désir furieux de traquer, de dénoncer et de vaporiser quiconque qui devrait suggérer que la semaine dernière, la ration était de 30 grammes. Sim, lui aussi, d'une manière plus complexe, impliquant une double réflexion, Sim l'a avalé. Était-il alors le seul à s'en souvenir ? Les fabuleuses statistiques continuent à déferler du télécran. Par rapport à l'année dernière, il y a eu plus de nourriture, plus de vêtements, plus de maisons, plus de meubles, plus de casseroles, plus de carburant, plus de navires, plus d'hélicoptères, plus de livres, plus de bébés, plus de tout, sauf la maladie, le crime et la folie. Année après année et minute après minute, tout le monde, toute chose, tout augmentait rapidement. Comme Sim l'avait fait auparavant, Winston prit sa cuillère et se plongeait dans la sauce pâle qui dégoulinait de l'autre côté de la table, en dessinant un long trait pour former un motif. Il méditait amèrement sur la matérialisation de la vie. Avait-elle toujours été ainsi ? La nourriture a-t-elle toujours eu ce goût-là ? Il embrassa d'un regard la cantine, un plafond bas, une salle bondée, des murs crasseux au contact d'innombrables corps, tables et chaises en métal cabossé, placées si proches les unes des autres que vous faisiez du coude à coude avec vos voisins, des cuillères pliées, des plateaux cabossés, de grosses tasses blanches, toutes les surfaces graisseuses, de la crasse dans chaque interstice, et une odeur aigre et composite de mauvais gin et de mauvais café, de ragoûts métalliques et de vêtements sales. On avait en permanence dans l'estomac et dans la peau une sorte de révolte, de sentiment d'avoir été trompé sur ce que vous aviez le droit de faire. C'était vrai que Winston n'avait en mémoire aucune vie différente. D'aussi loin qu'il se souvienne, il n'y avait jamais eu assez à manger. On n'avait jamais eu de chaussettes ou de sous-vêtements qui ne soient pas troués, ni de meubles qui ne soient pas abîmés et bancals. Ses seuls souvenirs étaient des chambres sous-chauffées, des trains de banlieue bondés, des maisons tombant en morceaux, du pain noir, un thé trop rare, du café dégoûtant, des cigarettes insuffisantes, rien n'était bon marché et abondant à l'exception du gin synthétique. Et si, bien sûr, la situation s'aggravait à mesure que son corps vieillissait? Si on a le cœur malade par l'inconfort, la saleté, la rareté, les hivers interminables, les chaussettes qui collent, les ascenseurs qui ne fonctionnent jamais, l'eau froide, le savon granuleux, les cigarettes en morceaux, la nourriture aux goûts étranges et infâmes, n'était-ce pas le signe que ce n'était pas l'ordre naturel des choses? Pourquoi ressentirait-on que c'est intolérable, à moins d'avoir le souvenir que les choses avaient été différentes autrefois? Winston scruta du regard la cantine à nouveau. Pratiquement tout le monde était laid, et il l'aurait été même habillé autrement qu'avec la salopette bleue réglementaire. De l'autre côté de la pièce, assis seul à une table, un petit homme qui ressemblait curieusement à un scarabée buvait une tasse de café, ses petits yeux lançant des regards soupçonneux de chaque côté. « Comme c'était facile !» pensait Winston, à condition de ne pas regarder autour de soi. De croire que l'idéal physique déterminé par le parti, jeune garçon grand et musclé et jeune fille à la poitrine généreuse, aux cheveux blonds, plein de vitalité, à la peau bronzée par le soleil insouciant, existait et même prédominait. En fait, pour autant qu'il puisse en juger, la majorité des personnes vivant dans la première région aérienne étaient petites, brunes et disgracieuses. Il est curieux de voir comment ce type de scarabée a pu proliférer dans les ministères. De petits bonshommes qui s'engraissaient très jeunes avec des jambes courtes, des mouvements rapides et précipités et un visage empâté, inexpressif, avec de très petits yeux. C'était le type même qui s'épanouissait le mieux sous la domination du parti. L'annonce du ministère de l'Abondance prit fin sur un autre coup de clairon et fit place à une musique de fond. Parsons, enthousiasmé par le bombardement de chiffres, retira sa pipe de sa bouche. Le ministère de l'Abondance a certainement fait un bon travail cette année, dit-il en secouant sciemment la tête. Au fait, vieux Smith, je suppose que tu n'as pas de lame de rasoir à me donner.
Pas une seule, dit Winston.
J'utilise la même lame depuis 6 semaines.
Ah, bon, je voulais juste tenter ma chance, mon vieux.
Désolé. Dit Winston. La voix de Canard à la table voisine, temporairement réduite au silence pendant l'annonce du ministère, reprit et plus fort que jamais. Pour une raison quelconque, Winston a curieusement et soudainement pensé à Madame Parsons, avec ses cheveux en mèche et la poussière dans les plis de son visage. Dans un délai de 2 ans, ses enfants la dénonceraient à la police de la pensée. Madame Parsons serait vaporisée. Sim serait vaporisé. Winston serait vaporisé. O'Brien serait vaporisé. Parsons, en revanche, ne serait jamais vaporisé. Les petits hommes en forme de scarabée qui se faufilent avec tant d'agilité dans les couloirs labyrinthiques des ministères, eux non plus, ne seraient jamais vaporisés. Et la fille aux cheveux noirs, la fille du département de fiction, elle ne serait jamais vaporisée non plus. Il lui semblait qu'il savait instinctivement qui allait survivre et qui allait périr, bien qu'il soit justement difficile de dire quelles sont les clés de la survie. À cet instant, il fut tiré de sa rêverie dans un sursaut violent. La fille, à la table d'à côté, s'était retournée de profil et le regardait. C'était la fille aux cheveux noirs. Elle le regardait du coin de l'œil, mais avec une curieuse intensité. À l'instant où elle attira son regard, elle détourna les yeux. La sueur commença à couler le long de la colonne vertébrale de Winston. Un horrible sentiment de terreur le traversa. Il disparut presque aussitôt, mais il laissa une sorte de malaise tenace. Pourquoi le surveillait-elle? Pourquoi continuait-elle à le poursuivre? Malheureusement, il ne pouvait pas se souvenir si elle était déjà assise à cette table lorsqu'il est arrivé ou si elle était venue ensuite. Mais hier, en tout cas, pendant les 2 minutes de la haine, elle était assise juste derrière lui, alors que rien ne le justifiait. Il est fort probable que sa véritable intention était de l'écouter et de s'assurer qu'il criait assez fort. Sa première pensée lui revint. Probablement qu'elle n'était pas membre de la police de la pensée, mais alors elle était précisément l'espion amateur qui représentait le plus grand danger pour tous.
Il ne savait pas depuis combien de temps elle l'observait, peut-être depuis 5 minutes. Et il était possible que ses expressions n'aient pas été parfaitement maîtrisées. Il était terriblement dangereux de laisser ses pensées vagabonder lorsque vous vous trouviez dans un lieu public ou à portée d'un télécran. La moindre chose pouvait vous trahir. Un tic nerveux, un regard inconscient d'anxiété, une habitude de marmonner seul, tout ce qui pouvait suggérer que vous étiez anormal ou que vous aviez quelque chose à cacher. En tout cas, montrer une expression impropre, avoir l'air incrédule à l'annonce d'une victoire par exemple, était une infraction condamnable. Il y avait même un mot pour cela dans le novlang, face crime. La fille lui avait encore tourné le dos. Peut-être qu'après tout, elle ne le suivait pas vraiment. C'était peut-être une coïncidence si elle avait été assise si près de lui 2 jours de suite. Sa cigarette s'était éteinte, et il l'avait soigneusement posée sur le bord de la table. Il finirait de la fumer après le travail s'il pouvait conserver le tabac. Il est fort probable que la personne à la table voisine fût une espionne, et il finirait probablement dans les caves du ministère de l'Amour dans les 3 jours. Mais un mégot de cigarette ne doit pas être gaspillé. Sim avait plié sa bande de papier et l'avait rangée dans sa poche. Parsons avait recommencé à parler. « Je t'ai déjà raconté, mon vieux, » dit-il en riant autour du tuyau de sa pipe. « La fois où mes 2 schnappants ont mis le feu à la jupe d'une vieille marchande parce qu'ils l'ont vu emballer des saucisses dans une affiche de bébé. Ils se sont faufilés derrière elle, ayant mis le feu avec une boîte d'allumettes. Ils l'ont brûlé assez gravement, je crois. Des petits schnappants, hein? Mais vifs comme la moutarde. C'est une formation de premier ordre qu'ils leur donnent chez les espions aujourd'hui. Mieux qu'à mon époque, même. Que croyez-vous qu'on leur ait donné dernièrement? Des cornets acoustiques pour écouter par les trous de serrure. Ma petite fille en a ramené un à la maison l'autre soir. Elle l'a essayé sur la porte de notre salon et a estimé qu'elle pouvait entendre 2 fois mieux qu'avec son oreille. Ah, bien sûr, vous savez que ce n'est qu'un jouet, mais ça leur donne quand même une bonne idée. Hein ? À ce moment, le télécran émit un sifflement perçant. C'était le signal de la reprise du travail. Les 3 hommes bondirent sur leurs pieds et rejoignirent la bousculade autour des ascenseurs, et le reste du tabac restant de la cigarette de Winston tomba.